France Culture.
Ce matin, sur le réseau social qui monte, le petit papillon bleu qui a remplacé l'oiseau devenu brun, un constitutionnaliste critique, si ça existe, a proposé une malicieuse réécriture de l'article 5 de notre Constitution de 1958. Aux deux premiers alinéas qui disposent que le président de la République veille au respect de la Constitution, qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, qu'il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il a ajouté donc un troisième alinéa. Il veille sur TikTok à éviter les contraventions routières subies par les influenceurs. Ce constitutionnaliste ironique faisait ainsi écho à un post sur TikTok, toujours, du président de la République lui-même, assurant, en réponse à un certain S4IINT, influenceur sur ce même réseau chinois, qu'il avait veillé à s'occuper personnellement et avec le ministre de l'Intérieur du problème que ce dernier avait soulevé. Oui, bientôt, il sera possible de payer avec son téléphone à un péage autoroutier sans risquer une amende. Eh bien, c'est de cette petite histoire que j'aimerais partir pour cette suite dans les idées ce soir en demandant à la juriste Laureline Fontaine en quoi elle apparaît révélatrice de la très grande faiblesse de la Constitution.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Du discours constitutionnel, on parlera du discours et du désordre du discours. C'est le titre d'un des spectacles de Fanny Tchaillet qui avait, il y a quelques années, mis en scène la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France. Laureline Fontaine avait très envie de dialoguer avec Fanny Tchaillet qui nous rejoindra depuis Bordeaux, depuis le théâtre de Bordeaux dont elle est devenue il y a quelques mois la directrice. Et puis dans la rubrique actualité cette semaine, c'est le nouveau numéro de la revue annuelle Sensibilité dont il sera question, un numéro consacré à la fête nuit et jour, et c'est l'historien Hervé Mazurel qui viendra nous en parler. Bonjour Laureline Fontaine.
Bonjour Sylvain Bourmont.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Sorbonne Nouvelle et vous publiez aux éditions Amsterdam La Constitution au XXIe siècle, l'histoire d'un fétiche social. Alors j'ai voulu raconter cette petite histoire prise ce matin, sur le fil de ce réseau social qui marche de mieux en mieux, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, tant la période, celle qui s'est ouverte avec la dissolution au mois de juin dernier, nous en donne l'occasion tous les jours. Cette histoire, elle nous explique au fond avec ironie que la Constitution a beau exister, a beau définir des rôles pour différents acteurs politiques, au premier chef celui du président de la République, eh bien la pratique politique ne correspond pas en fait à ce qui est écrit dans la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution ne prévoit en aucun cas que le président de la République puisse s'occuper de ce genre de choses, voire annoncer ou confier au ministre de l'Intérieur quoi que ce soit en la matière. Mais pour autant, c'est comme ça. Non seulement c'est comme ça, mais c'est comme ça et on peut le lire dans les journaux. Tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal.
Alors, je ne sais pas si tout le monde trouve ça parfaitement normal. Il est vrai que nous vivons une séquence où se donne à voir tous les jours la légèreté avec laquelle on considère le texte constitutionnel. Et en réalité, ça n'est pas nouveau. Et il y a des causes profondes à cela, et c'est ce que j'ai essayé de chercher. Donc effectivement, il y a une très très grande malléabilité du texte constitutionnel. Tout constitutionnaliste se plaît en cours à dire souvent que effectivement il y a le texte et puis il y a la pratique. Mais au-delà de ce simple constat, souvent on ne tire pas beaucoup de conséquences quant à ce que représente finalement la Constitution pour nous, parce que je suis quand même partie de ce constat que souvent, nous aimons les constitutions, nous faisons beaucoup de débats pour savoir quoi inscrire dedans, éventuellement pour la modifier. Mais si c'est pour que, finalement, le texte ne soit pas réellement appliqué, alors à quoi sert-il effectivement ? Et c'est important parce que je me suis aperçue qu'en réalité, il sert, mais il ne sert pas à ce qu'on croit. C'est-à-dire, il sert essentiellement à venir en soutien, à venir apporter la légitimité à ceux qui exercent le pouvoir en vertu de ce texte. le président de la République est le président de la République parce que le texte constitutionnel indique que celui-ci est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Et donc la personne qui remporte la compétition devient président de la République en vertu de la Constitution et ainsi de suite. Ça vaut pour le Parlement, etc., etc. Et ça a toujours un peu valu comme ça depuis que l'histoire constitutionnelle a commencé, ou plus précisément depuis qu'on écrit les constitutions, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle.
Alors justement, je ne doute pas qu'on reviendra sur cette situation actuelle qui offre un laboratoire passionnant pour qui s'intéresse à ces questions. Mais le grand mérite, le grand intérêt de votre livre qui est passionnant, c'est de revenir précisément aux sources de ce qu'on appelle le constitutionnalisme, c'est-à-dire ce moment à partir duquel on va écrire noir sur blanc les règles constitutionnelles, les codifier, les mettre dans un texte. Bon, il prend différentes formes selon les époques, selon les pays. C'est nouveau et pas nouveau à l'époque, c'est-à-dire que ce n'est qu'une nouvelle étape de quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire le fait qu'il existe des règles du jeu politique. Mais la formalisation de ces règles, c'est ça qu'on appelle le constitutionnalisme. Et ça naît au XVIIIe, même si ça commence au XVIIe siècle, principalement, Laureline Fontaine.
Oui, on les formalise. Plus précisément, on leur donne le caractère d'antériorité par rapport à l'institution du pouvoir. Tandis qu'auparavant, il y avait une forme de continuité entre la règle constitutionnelle et la pratique, et précisément, la règle était la transcription de la pratique. Le constitutionnalisme, c'est ce moment où on dit que c'est en vertu de la règle qui est antérieure à l'institution du pouvoir que celui-ci, précisément, va pouvoir s'exercer. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau dans l'esprit. Bien sûr qu'il y a une intention derrière cela, une intention qui est très claire, c'est de limiter l'exercice du pouvoir, en tout cas de limiter les effets de l'exercice du pouvoir. Cette généalogie-là, elle compte pour deux raisons. La première, c'est pour se souvenir de ce que la Constitution est censée représenter, une limite. Et on a tendance à beaucoup l'oublier aujourd'hui, puisque on voit des attitudes complètement inverses, où les différents organes de pouvoir tendent plutôt à essayer de puiser dans le texte constitutionnel toutes les ressources nécessaires pour agrandir leur pouvoir, pour étendre leur capacité d'action. Cette question aussi de la limite vient interroger finalement les raisons pour lesquelles on voulait limiter l'exercice du pouvoir. Et ce qui me semble important à noter aujourd'hui, c'est que finalement on ne s'interroge plus du tout sur ces questions-là. On fait comme si, et beaucoup, malheureusement, beaucoup de constitutionnalistes participent un peu de cette manière de faire, même à leur corps défendant parfois. L'idée, c'est que on ne s'intéresse pas à ce que le pouvoir ne peut pas faire, on s'intéresse surtout à ce qu'il peut faire. Et on va voir ainsi des constitutionnalistes donner leur interprétation du texte, des interprétations parfois contradictoires, mais tellement contradictoires qu'à la fin, elles s'annulent. Et le résultat, c'est que les organes institués, eh bien finalement, font à peu près ce qu'ils veulent, sans aucune limite. Et pour l'instant, je ne parle pas encore de la faiblesse de l'organisation des contre-pouvoirs.
Il y a cette phrase lumineuse à un moment dans votre livre, j'y avais jamais pensé comme ça, les constitutions interdisent peu. Oui. Et au fond, on se demande si c'est du droit du même coup. Parce que ce qui caractérise le droit, c'est en général la sanction qui va avec.
Alors c'est ce qu'on dit, en effet, c'est des développements que l'on retrouve dans toute bonne théorie du droit. Les juristes constitutionnalistes depuis fort longtemps ont essayé d'accrocher le texte constitutionnel qu'ils savaient être d'une faiblesse infinie à l'idée de sanctions, et ils l'ont fait notamment par la justice constitutionnelle, c'est pour ça qu'ils vénèrent la justice constitutionnelle. La problématique, c'est que cette justice-là, elle n'est pas réellement indépendante, et elle rentre précisément dans le jeu du pouvoir qui a bien vu cette caractéristique des constitutions qui en effet interdisent peu Peut-être puis-je prendre l'exemple de la réforme des retraites à partir de l'article 47.1.
Oui, c'est passionnant parce que c'est un peu un fil rouge dans votre livre et qui permet de penser beaucoup de choses.
Oui. Alors, ce que je ne dis peut-être pas dans le livre, c'est que finalement, la Constitution, si elle avait explicitement, expressément interdit le recours à l'article 47.1 pour réformer l'âge légal de départ à la retraite, eh bien effectivement, le gouvernement n'aurait pas pu le faire. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que simplement, elle institue une procédure pour certaines raisons qui sont assez claires au moment où cette procédure est instituée. Il faut juste lire les débats parlementaires en 1996, lorsque l'article 47.1 est introduit dans la Constitution. Mais aussi, il faut comprendre que cette nouvelle catégorie de loi, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, n'existait pas avant.
C'est ça qu'il faut expliquer. Cette réforme fait advenir une nouvelle catégorie de loi.
Une nouvelle catégorie de loi qui n'existait pas avant, mais c'est pas tout à fait des lois comme les autres. C'est-à-dire qu'auparavant, justement, c'était pas des lois. Auparavant, le gouvernement faisait l'opération lui-même via des actes réglementaires, sans le Parlement. Sans le Parlement, ça voulait dire qu'en fait, il prenait acte de certaines décisions du Parlement, par exemple, réformer l'âge légal de départ à la retraite, et il appliquait ces décisions et il trouvait les ressources en fonction de ces différentes décisions du Parlement.
Selon le pouvoir réglementaire qui lui est donné par l'article 34, en l'occurrence, de la Constitution.
Voilà, par les articles 34 et 37. Effectivement. Et là, en 96, on se dit, bon, quand même, on a une petite idée de ce que le gouvernement, parfois, va un peu au-delà des attributions qui lui sont conférées. Donc, on se dit, on va donner un droit de regard au Parlement sur cette opération. Ce faisant, cette opération ne change pas de nature, même si ça devient formellement un acte de Parlement, effectivement, mais ça ne change pas de nature. Sauf que dans ce qui s'est passé en 2023, le gouvernement a fait changer l'acte de nature. Et ce que j'ai constaté, c'est que les oppositions ont été quasi muettes sur ce plan-là, pour plusieurs raisons. À la fois parce que les oppositions ne connaissent pas bien le texte constitutionnel, et c'est aussi un constat très important. Les politiques ne connaissent pas le texte constitutionnel, ils sont élus en vertu de celui-ci, ils ne le connaissent pas. Donc non seulement ils ne le connaissaient pas, ils ne connaissaient pas non plus bien les moyens qui auraient pu leur permettre de s'opposer. Et à la fin, le Conseil constitutionnel,
qui malgré tout a été interrogé sur cet aspect des choses.
Voilà, et dont on se souvient qu'il avait été barricadé juste avant de rendre sa décision. Bien, le Conseil constitutionnel étant une sorte d'annexe du pouvoir exécutif, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de sa part. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il a validé sans trop de difficultés l'essentiel de la réforme. Sans même se pencher sur l'usage de l'article 47.1 en disant que simplement que puisque la procédure était dans la Constitution, eh bien il n'était pas anormal de l'utiliser, ce qui fait qu'on est rendu à peu près au degré zéro de la lecture du texte constitutionnel.
Au fond, ça pose la question de la manière dont est contrôlé le fait de respecter ou non la Constitution. Vous rappelez un article de la première Constitution française qui faisait porter le contrôle sur tous les citoyens, les bons pères de famille et les femmes. Tout le monde, en fait, était chargé, comme c'est le cas d'ailleurs en Grèce, je crois, c'est ce que
absolument.
Vous citez aussi, plus loin dans le livre. Et donc, aujourd'hui, à mesure que se sont développées les cours constitutionnelles, on a le sentiment que ce sont ces cours constitutionnelles, que ce soit le Conseil constitutionnel en France, la Cour suprême aux États-Unis, le tribunal fédéral en Allemagne, etc., mais que ces cours sont là pour vérifier que la Constitution est bien respectée. En fait, si on prend l'exemple de la France, il y a un contrôle de constitutionnalité des lois, il y a même la possibilité de faire exercer ce contrôle après coup avec les QPC désormais. Mais il y a des tas de manières d'enfreindre la Constitution qui ne relèvent pas du contrôle du Conseil constitutionnel. On parlait tout à l'heure du fait, pour le président de la République, d'outrepasser ses pouvoirs. C'est pas le Conseil constitutionnel qui est compétent pour en décider ou pas, en fait, Laureline Fontaine.
Non, c'est pas le Conseil constitutionnel qui est compétent, mais vous avez fait référence à la Constitution de 1791 qui effectivement confie la garde de la Constitution qui remet la garde de la Constitution à la vigilance des citoyens. Je note quand même que dans la Constitution de la Ve République, que vous avez cité en préambule de cette émission, c'est le président de la République qui est gardien des institutions. Et pour le coup, c'est pas le Conseil constitutionnel. Dans les mots.
Donc le président de la République est gardien de lui-même, au fond.
C'est à peu près ça. C'est effectivement ce qu'on observe. La seule limite qui existe, pour le coup, c'est une limite dont on envisage à peine de se servir. C'est la question de la destitution, effectivement. C'est le seul cas qui pourrait empêcher, dans un certain nombre de cas, le président de la République d'agir.
Donc c'est l'arme atomique. Enfin, il n'y a pas de
demi-mesure, effectivement. Alors, il y a des pays où la Cour constitutionnelle peut être chargée de résoudre ou de trancher des conflits d'interprétation de la Constitution entre les différents organes constitutionnels. C'est le cas, par exemple, en Italie. Mais ce que l'on constate, dans tous les cas, même quand ça existe, c'est que les cours constitutionnels pratiquent ce qu'on appelle un self-restraint vraiment extrêmement important, c'est-à-dire qu'elles se mettent le plus possible en dehors du jeu politique. Je viens de parler de la Cour constitutionnelle en Italie. Lorsque le gouvernement, par exemple, utilise la disposition de la Constitution sur les décrets d'urgence en période normale, la Cour constitutionnelle ne dit pas grand-chose. Donc, les cours constitutionnelles, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la garde de la Constitution, ont quand même reçu cette mission de contrôler la constitutionnalité des lois et parfois de l'action des pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette idée a suffi effectivement à ce que nous, je vais le dire comme ça, nous simples citoyens, ne nous méfions pas beaucoup. Et on a une confiance d'ailleurs excessive, finalement, dans la justice constitutionnelle, parce qu'on se dit, bon, il y a un gardien, donc tout va bien. Et si tout ne va pas bien, en fait, il y a une méfiance envers ceux qui disent que ça ne va pas bien. Comme si, finalement, ils étaient presque fantasmants, parce qu'il existe une Cour constitutionnelle qui est dite gardienne des institutions. Et donc, j'allais dire que, formellement, ce type de mécanisme nous préserve d'être, justement, suffisamment méfiant avec l'usage des pouvoirs. Et c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans ce livre, c'est que finalement, nous avons un peu délégué de manière excessive l'organisation et le contrôle du pouvoir. Et implicitement, ce n'est pas ce que je dis dans le livre, bien sûr, mais implicitement, on peut lire qu'il y aurait plutôt intérêt à se réapproprier cette question et peut-être d'ailleurs ne pas la laisser non plus trop aux constitutionnalistes.
Alors justement, on va voir le rôle des constitutionnalistes au sens large. On revient sur la situation contemporaine parce qu'elle est tellement incroyable qu'on a envie de la commenter. Mais prenons quand même le temps de revenir en arrière. Vous expliquez à propos de la naissance de ces textes à quel point ils doivent au contexte littéraire, au contexte d'écriture de ce moment. Parce que ce passage à l'écriture est nourri au fond de textes de philosophes, de textes d'écrivains qui procèdent d'une même logique. C'est-à-dire, vous dites à quel point, au fond, les constitutions procèdent des contes. Du conte, c'est-à-dire des contes du siècle des Lumières en particulier.
Oui, c'est assez frappant lorsque on commence à étudier toute cette période qui précède l'écriture des constitutions. On voit évidemment que le rôle de l'écriture du droit depuis plusieurs siècles devient évidemment très très important. Mais s'agissant spécifiquement du pouvoir, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a en effet des écrits de philosophes et de juristes que l'on commence à trouver à partir des 15e, 16e et 17e siècles qui se répandent plutôt pas mal à l'instar des contes et qui commencent à être très lus. Et dont l'objet est de parler du pouvoir, d'imaginer le pouvoir comme il pourrait être, afin d'offrir une sorte de vitrine pour pouvoir, en quelque sorte, évaluer l'exercice contemporain du pouvoir. Et c'est pour ça que je compare l'écriture des constitutions à l'écriture des contes et des premières utopies aussi, parce que c'est extrêmement intéressant de voir que les premières utopies sont rédigées par des juristes et qui, en plus, ont partie liée avec l'exercice du pouvoir. Et ce sont eux, donc, qui proposent des sociétés imaginaires avec des règles tout à fait autres de celles qu'elles sont, dont la spécificité, la plupart du temps, est d'être plutôt de favoriser des sociétés égalitaires dans lesquelles tout le monde participe de l'exercice du pouvoir, sans que l'on parle encore de la démocratie. C'est pas du tout un sujet à l'époque.
Vous parlez d'ailleurs de récits constitutionnels pour caractériser ces textes. Des textes qui, quand ils prennent la forme petit à petit des constitutions, vont placer au cœur une mythologie de la naissance du pouvoir et donc de sa délégation, du même coup, avec aussi au cœur la notion d'égalité.
Oui. Ces récits constitutionnels font que qui se placent tous au nom du peuple. Hein, ce sont des récits qui sont faits au nom du peuple, même si le peuple n'a aucun lien réel avec cette écriture.
C'est le peuple qui parle.
C'est le peuple qui parle. On le fait parler. Voilà, on le fait parler et on prône des valeurs qui sont par définition, alors moi j'aime bien ce terme, aimables, et qui vont provoquer l'adhésion du plus grand nombre. Parce qu'en effet, qui ne veut pas, qui ne voudrait pas d'une société égalitaire, qui ne voudrait pas d'une société où tout le monde est déclaré libre? C'est évidemment quelque chose de très enviable et c'est grâce à ça, en partie, c'est grâce à cette mythologie que les constitutions réussissent. Alors, elles réussissent en quoi? Non pas à réaliser l'égalité ou la liberté. Elles réussissent en ce qu'elles instituent le pouvoir, un pouvoir qui s'exerce donc en vertu de ce récit constitutionnel.
Elles réussissent à instituer, à légitimer, elles sont un instrument puissant de légitimation, mais effectivement elles ne réussissent pas et vous faites une sorte d'évaluation rétrospective de ces textes en vous demandant, après tout, après plusieurs siècles d'affirmation de l'égalité, d'affirmation de la liberté, on peut noter des progrès qui sont pas formidables en fait en la matière, voire des statu quo où certes les choses changent, certes les groupes sociaux varient, mais la Constitution est toujours là pour finalement indiquer à quel point il y a un hiatus entre le monde tel qu'il devrait être, celui qu'elle décrit, et puis le monde tel qu'il est, tel qu'on peut l'appréhender à travers des statistiques, par exemple, qui viendraient mesurer les inégalités.
Oui, c'est un peu mon point de départ, de constater à quel point parfois nous semblons mettre notre salut dans le texte constitutionnel, dans un changement de constitution ou simplement parfois dans une modification de la constitution, et rétrospectivement de s'apercevoir que finalement, alors je rappelle que c'est une histoire qui n'est pas spécifiquement française que je fais.
Et ni spécifiquement européenne ou américaine, vous avez des références à beaucoup de pays, y compris en Amérique latine, en Afrique, un peu partout en Europe.
Mais oui, parce que c'est quand on parle du constitutionnalisme, on ne peut pas ignorer le fait que ce phénomène s'est répandu partout dans le monde et assez rapidement finalement. Ça fait 250 ans qu'on écrit les constitutions, qu'on a écrit les premières constitutions et cette idée-là d'écrire le pouvoir, elle s'est diffusée partout dans le monde.
À la faveur de la colonisation et surtout encore plus de la décolonisation.
Mais voilà, mais alors c'est quelque chose de vraiment très important parce que ça pourrait paraître un truisme que de rappeler que finalement, par exemple, la Constitution américaine, elle est le fruit de quoi? Elle est le fruit d'une population colonisatrice et génocidaire et qui... on va dire que ça n'est pas qu'elle fait un compromis avec l'esclavage, c'est que elle s'érige indépendamment de cette question, alors qu'elle proclame l'égalité, la liberté. Mais comme je le rappelle, à l'époque, l'homme libre, c'est l'homme blanc propriétaire, hein, c'est tout. Donc ils se sentent cohérents avec eux-mêmes, mais le problème c'est que nous les lisons autrement, nous, et même déjà à l'époque certains les lisent autrement. L'esclavagisme va quand même durer extrêmement longtemps. On a une adoration pour la Constitution américaine et pourtant, ensuite, il y aura la ségrégation, toujours validée en plus par la Cour suprême américaine. La Cour suprême avait commencé par valider l'esclavage, puis elle a validé la ségrégation. Et si on regarde un peu partout dans le monde, en fait, des phénomènes analogues se trouvent. Je cite à la fin l'exemple de l'Afrique du Sud, parce que je trouve que c'est un excellent exemple, parce que c'est une constitution qui, en plus, pour le coup, aime beaucoup les constitutionnalistes. C'est vraiment un exemple de constitution et un exemple de processus constituant. Cette constitution post-apartheid, plus de 20 ans plus tard, la société sud-africaine est considérée comme l'une des plus inégalitaires du monde. Et pourtant, elle a une des plus belles constitutions du monde. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, malgré les constitutions, le monde avance. Et le monde avance sans égard pour l'égalité, sans égard pour la liberté. Et je crois que c'était très très important à rappeler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre notre salut d'abord dans la Constitution. Les constitutions succèdent toujours au changement, elles ne le précèdent jamais. Et je crois que c'est une erreur politique très importante que de commencer par essayer d'imaginer la Constitution ou une nouvelle Constitution avant de commencer par imaginer d'autres modes d'action politique.
Il y a un autre chapitre dans votre livre qui s'intéresse à la dimension économique du constitutionnalisme. Parce que ce mouvement, qui est aussi un mouvement d'idées, qui vient des philosophes, qui vient des juristes, et qui est un mouvement pluraliste, malgré tout, il y a des débats, il y a des disputes que vous retracez. Néanmoins, au-delà de ces différends, porte un rapport de force entre groupes sociaux qui lui aussi est inscrit dans ces textes constitutionnels et permet de légitimer une sorte de situation de domination économique.
Oui, il m'a semblé que c'était très important à rappeler, c'est pour ça que j'y consacre un chapitre entier. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, quand on lit un peu tous les philosophes qu'on qualifie aujourd'hui de philosophes politiques, on s'aperçoit que la question économique devient absolument essentielle. Et quand on regarde les débats politiques déjà, quand on regarde, j'ai trouvé ça très intéressant de constater, par exemple, que le mouvement des physiocrates à l'époque, donc qui adossait l'économie et le pouvoir sur le rapport à la terre et à la nature, eh bien, sont parmi les premiers à avoir imaginé des textes constitutionnels. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on commence à ne plus penser le pouvoir, quelles que soient les opinions que l'on a d'ailleurs, que dans son rapport avec la question économique. De fait, il me semble que c'est une certaine manière de voir les liens entre le pouvoir et l'économie qui l'emporte, mais il ne l'aurait pas emporté si tout le monde n'avait pas eu cette même manière de penser le pouvoir à partir de la question économique. Et effectivement, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement, les premières constitutions, ce sont des textes rédigés par un petit groupe qui ne reçoivent même pas l'approbation du plus grand nombre, eh bien, on constate que, si on regarde la constitution américaine, le processus constituant américain ou français, que finalement, c'est le même type d'hommes et d'intérêts qui l'emportent. C'est-à-dire, ce sont des hommes propriétaires, qui d'ailleurs rejette explicitement l'idée de la démocratie, parce que c'est dangereux pour la protection de la propriété, pour les intérêts de la propriété. Cette propriété-là, elle se détache justement, par exemple, de la propriété traditionnelle liée au foncier et à la terre. Et ce sont les autres, les nouveaux intérêts, liés à l'émergence de la société industrielle et capitaliste, qui vont être à l'origine des premières constitutions. Et surtout, ensuite, qui vont diffuser le constitutionnalisme partout jusqu'à la fin du XXe siècle. On a un mouvement qui est assez visible de ce point de vue-là. Et j'ai un petit passage où je parle du rôle, par exemple, des institutions financières internationales dans la promotion de la justice constitutionnelle. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que si on se demande pourquoi des institutions financières promeuvent la justice constitutionnelle alors que nous la voyons comme une instance protectrice de nos droits et libertés, c'est parce qu'elle est avant tout en fait une instance protectrice des droits et libertés économiques et que ça fonctionne extrêmement bien.
une autre manière de prendre la mesure contemporaine de cette dimension économique du constitutionnalisme, c'est aussi de regarder ce que, entre guillemets, on peut appeler, que vous appelez, la constitution de l'Europe, Laureline Fontaine.
Oui. Il y a un juriste allemand qui a parlé de l'hyperconstitutionnalisation de l'Europe et qui a dit que ça n'aurait peut-être pas été tant un problème ce qui avait été hyperconstitutionnalisé, c'était des valeurs politiques liées justement à la liberté et l'égalité. Et ce qu'il constate, c'est que en fait, ce qui a été hyperconstitutionnalisé, ce sont les libertés économiques. C'est la libre concurrence, la libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux, qui l'emporte sur tout.
Y compris la libre circulation des données, parce que vous parlez du cas du RGPD, ce fameux règlement qui protège, qui est fait pour être protégé, mais qui vise surtout à protéger le fait pour les données de circuler.
Exactement. Alors, je parle du RGPD quand je veux montrer comment on lit mal souvent les textes juridiques, parce que quand je dis on les lit mal, c'est parce qu'en fait, on veut les lire toujours sous leurs meilleurs aspects. Et pour le RGPD, c'est assez flagrant. C'est qu'en effet, l'article premier, dans ses deux premiers alinéas, a l'air de protéger, de nous protéger de l'exploitation de nos données personnelles. Et en fait, quand on va jusqu'au bout de l'article, on s'aperçoit que pas du tout. Ce RGPD est en réalité fait pour justifier. On en revient toujours à cette question de la justification de la légitimité pour justifier l'exploitation de nos données pour des raisons commerciales.
Un dernier mot pour cette première partie, Laureline Fontaine, à propos d'un mot qu'on n'a pas prononcé, je crois, mais qu'on trouve dans le sous-titre de votre livre, la Constitution comme un fétiche. Pourquoi ?
On peut y voir plein de références à des auteurs que je ne cite pas d'ailleurs. On peut y voir des références à Karl Marx, à Freud, évidemment. Et je crois qu'en fait, les deux valent de manière quasi égale. D'un côté, il y a la vie propre que semble mener la Constitution et le constitutionnalisme, et ce qui pourrait la faire comparer au fétichisme de la marchandise dont parlait Marx. Et puis, d'un autre côté, il y a cette espèce d'attachement à la Constitution auquel nous tenons de manière complètement irraisonnable. Et c'est ainsi que je vois les choses. Nous mettons notre salut dans ce texte comme s'il avait des pouvoirs magiques que nous n'avons jamais vus.
La metteuse en scène Fanny de Chaillet nous rejoint pour la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait du nouvel album de Cameron Winter, Love Takes Miles.
Love will come when you get enough under your arms. Oh, mama, love will come. Love will make you fit it all in the car. Oh, mama, something will take you by your pants and swing you over its head and kick you back and forth. Watching the bells, watching the lights. What I want is far away. Talk to the moon, flatten her down. Make her watch the wind all night. She can't wait, lonely as hell. Walking around without moving. I'm back here, watching the moon. In your shoes, mama. I need your feet more than you do, mama. I need somebody sent down from the sun that talks to me how you used to. Only as hell. Open
suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Laureline Fontaine, vous avez souhaité dialoguer avec Fanny de Chaillet, qui est avec nous depuis Bordeaux, où elle dirige le théâtre de Bordeaux. C'est une metteuse en scène de théâtre, mais de spectacles vivants qui sont à la lisière aussi de la danse. Et je crois que la danse n'est pas pour rien dans votre envie de dialogue.
Oui, je suis toujours assez frappée de constater que beaucoup de chercheurs mettent souvent le corps à part. J'allais dire comme si ça ne faisait pas partie d'eux-mêmes. Je pense que le corps du chercheur est très important dans ce qu'ils font et dans la recherche. Et donc, quand quelqu'un essaye de lier la recherche, les idées et le corps, et ben, je trouve ça nécessairement intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Fanny de Chaillet.
Fanny de Chaillet, j'imagine que ça vous parle, parce que c'est un programme que vous partagez depuis l'autre côté, en quelque sorte. Vous avez, je le rappelais tout à l'heure, par exemple, mis en scène la leçon inaugurale L'ordre du discours de Michel Foucault de 1970. Vous l'avez relativement récemment mis en scène, mais de façon plus générale, vous êtes dans des formes de compagnonnage étroit avec des penseurs, avec des écrivains, et pas seulement avec des musiciens, avec les gens qu'on trouve habituellement dans les théâtres.
Oui, en tous les cas, sur ce projet-là de désordre du discours, c'était vraiment l'envie et de départ, c'était vraiment de redonner du corps à cette pensée. Donc, c'est tout à fait dans le sens de ce que nomme Laureline Fontaine. Il s'agissait pour moi déjà de sortir de la boîte noire et de retrouver l'amphithéâtre d'université que j'avais fréquenté beaucoup et beaucoup aimé, et de mettre les spectateurs dans la situation d'auditeurs. Et de me servir de cet espace qu'est l'amphithéâtre, alors qu'il y a un espace très clair, hein, ou en tout cas l'endroit de celui qui écoute et celui qui parle est très déterminé, et de remonter, puisque en fait j'ai voulu monter ce texte de Foucault et j'avais oublié, parce que c'est un texte que je connais depuis des années, que j'aime beaucoup. Et je voulais faire un solo pour Guillaume Bayard, qui est un des acteurs avec qui je travaille depuis longtemps. Et il se trouve qu'on a une passion pour des textes théoriques un peu importants. Voilà, donc l'ordre du discours est apparu. Et en cherchant, et en la relisant, je me suis rendu compte que c'était la leçon inaugurale de Foucault, mais j'avais totalement oublié cette chose-là. Donc évidemment, je suis allée au Collège de France pour trouver un enregistrement ou une vidéo, une trace. Et là, on m'a dit qu'à l'époque, on n'enregistrait pas et on filmait pas ce genre d'événement.
Donc la seule trace, c'est le texte, en fait.
Exactement, qui a été publié quelques années plus tard. Donc, probablement rectifié, corrigé, enfin voilà quoi. Mais, et ça, j'ai trouvé ça, enfin en tous les cas, ça m'a bien arrangé. Je me suis dit, ah mais voilà, grâce au théâtre, je peux revenir de ce vide, corriger cette absence. Voilà.
Laureline Fontaine.
Oui, alors je trouve ça d'autant plus intéressant que j'ai une histoire toute personnelle avec le rapport de la pensée de Foucault et le fait de ce que ce soit Foucault qui la dise, parce que j'ai découvert des enregistrements de quelques-unes de ses leçons après avoir lu. Par exemple, Naissance de la biopolitique, j'ai découvert après qu'il y avait des enregistrements. Et ça a été vraiment une forme de révélation, parce que ce que j'avais lu, c'était pas tout à fait ce que j'avais entendu, mais au sens, les mots parfois étaient exactement les mêmes, mais l'intention qui était derrière était vraiment tout autre que ce que j'avais pu imaginer simplement à la lecture. Et c'est là où s'est cristallisé définitivement chez moi l'idée que l'oralité, pour diffuser de la pensée, c'était vraiment bien différent de l'écriture. Et c'est pour ça que moi, je suis très attachée aussi à mon métier d'enseignante. Je ne veux pas faire qu'écrire, parce que les choses se transmettent si différemment quand on parle. Et j'avais entendu une interview de Fanny de Chaillet, à qui on disait qu'elle avait répondu à une interview précédente que ce qui lui paraissait le plus important dans le corps, c'était l'appareil phonétique. Et donc, je trouve ça assez fabuleux, c'est-à-dire qu'effectivement, le corps qui parle, c'est sans doute tout tout aussi important, où ça dit tout autant de choses qu'un corps qui bouge. Et donc, d'essayer d'associer les deux, c'est nécessairement une entreprise heuristique, il me semble.
Mais là, on a que le corps qui parle de Fanny Chaillet, puisqu'elle n'est pas avec nous en studio. Elle est à Bordeaux.
Je suis devant mon téléphone, c'est un peu étrange de converser avec vous de cette façon d'ailleurs. Mais enfin, en tous les cas, il y avait vraiment ça, c'est-à-dire que se dire comment le corps peut nous faire rejoindre cette pensée-là, qui est un peu complexe. En plus, ce texte est un peu difficile. Enfin, et on voit que par l'incarnation, quand même, on arrive à atteindre un niveau de sens incroyable et d'emmener les auditeurs avec nous dans cette. Parce que Guillaume a appris le texte par cœur, hein, il le lit pas du tout, et j'ai chorégraphié pour le faire entendre en fait. J'ai mis en espace et chorégraphié ce texte pour qu'on l'entende. Évidemment, on a beaucoup regardé Foucault parce que, alors, on limite pas, sauf quand il parle de la question de l'auteur, parce que bon, voilà, on n'allait pas non plus s'en priver. C'est une voix tellement, tellement reconnaissable et tellement, enfin, qui est très liée à sa pensée aussi. Mais néanmoins, on l'a beaucoup observé et ça aussi, c'était très beau à voir. C'est-à-dire que, par exemple, Foucault, quand il va vous dire quelque chose d'un peu compliqué, on a remarqué qu'il vous faisait toujours un grand sourire avant d'y aller pour vous dire « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et après, il déploie comme ça. Et ça, c'est très, très agréable de se dire qu'on peut jubiler de la pensée, en fait. Et on voit qu'avec des ordres de discours, en tous les cas, ça marche. C'est-à-dire que dans les amphis, en tous les cas, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. On est très heureux d'avoir accès tout d'un coup à ce niveau de pensée-là. Alors en plus, bon, évidemment, le texte est incroyable. Se dire que Foucault a fait, pour sa leçon inaugurale, un discours sur le discours, en décortiquant les procédures de contrôle de ces discours, c'est quand même évidemment génial, quoi. Et tout ça en balayant sa recherche, évidemment, mais... Et puis surtout au Collège de France, enfin, non, tout est très fort. Après, ce qui... Voilà, pardon.
Non, mais allez-y.
Non, après, ce qui était super pour nous avec Guillaume, nous ne sommes pas des grands penseurs, on s'est fait aider quand même un peu par des philosophes, et puis des gens qui pensent un peu mieux que nous. Mais enfin, quand même, ce qu'on a trouvé tous les deux, c'est qu'il y avait plein de choses qu'on savait, mais on ne savait pas que c'était grâce à Michel Foucault. Et ça, c'est quand même génial de dire que les grands penseurs, ben, ils nous aident quand même, en tous les cas, à penser tous les jours ce qu'on pense. Et ça, c'était vraiment très réjouissant de se dire « Ah, mais tout ça, on le sait grâce à lui, sans savoir que c'est lui. » Voilà. Donc la pensée de Foucauldienne est vraiment en nous, à travers nous. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Donc ça, c'est très agréable.
Il y a une autre chose dont parlait Laureline Fontaine qui a dû vous toucher aussi, Fanny Chaillet, c'est quand elle expliquait que c'est l'archive au fond, c'est le qu'elle explique, écoutait les enregistrements qui avaient été faits par des gens dans le public de Foucault. Vous travaillez beaucoup pour des spectacles plus récents, enfin et toujours dans la lignée de celui sur le désordre du discours, sur l'archive, sur les documents. Et sur la mise en scène qu'on peut, et les chorégraphies qu'on peut en tirer, Fanny Chaillet.
Oui, c'est vrai. J'aime bien ça. Enfin, en tous les cas, j'aime bien aller chercher. Alors là, je l'ai fait pour une autre histoire du théâtre, par exemple, où ma dernière pièce s'appelle Avignon, une école. C'est-à-dire que vraiment, je demande aux acteurs et actrices de recopier des scènes de théâtre, en l'occurrence, là, ou des archives liées au festival, etc. Pour juste qu'on réinterroge cette archive, mais d'aujourd'hui. Et je vois que chez les acteurs et les actrices, faire ressurgir ce passé en le réincarnant, ça permet de mieux l'interroger, quoi. Et ouais, c'est quelque chose que je pratique beaucoup.
Laureline,
pardon.
Pardon, oui.
Non, je vous en prie.
Non, moi juste peut-être ce que je voulais dire aussi pour revenir sur l'ordre du discours, le désordre du discours, ça résonne aussi un petit peu avec ce que j'essaye de raconter. Fanny Chaillet a parlé de ce texte où il y a discours, métadiscours, contrôle des discours, etc. Et moi, j'ai un peu le sentiment que sur la question constitutionnelle, c'est un peu ce qu'on vit quand même. C'est-à-dire qu'il y a le discours constitutionnel, il y a les discours à propos de la Constitution qui tendent à phagocyter, en fait, ce qu'on peut... ce qu'on peut penser à propos de la Constitution. Et donc, il faut être un peu un fouilleur pour aller chercher au-delà du discours la valeur qu'il convient de donner au premier discours. Et quand je dis un travail de fouilleur, ben voilà, en fait, pour moi, il y a une action presque corporelle, concrète, d'aller chercher, d'aller fouiller. Et pour le coup, je pense qu'on peut pas mettre n'importe quelle idée et n'importe quel penseur en scène.
C'est sûr.
Fanny Chaillet, peut-être on peut faire référence à des spectacles de vous qu'on peut voir bientôt. Je sais qu'il y aura au Théâtre Public de Montreuil bientôt un ensemble de spectacles.
Ouais, un grand temps qui m'est accordé, qui s'appelle Quartier d'artistes. Où voilà, je vais présenter ma pièce Le Cœur, une pièce qui s'appelle Transformer, qui est un hommage à Lou Reed, une pièce qui s'appelle La Bibliothèque, où je fabrique des récits avec des gens qui se passent exclusivement dans la bibliothèque. Et j'invite d'ailleurs Hervé Mazurel, qui est, je crois, dans votre émission, à faire une conférence sur l'histoire des sensibilités.
Je suis ravi.
Voilà, transition toute trouvée. Merci Fanny de Chaillet pour cette rubrique Actualité.
Merci à vous.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Bonsoir Hervé Mazurel.
Bonsoir Sylvain Bourmeau.
Vous êtes l'un des animateurs, avec quatre autres personnes, de cette très belle revue Sensibilité, Histoire critique et sciences sociales. C'est une revue annuelle. Quand je dis très belle, c'est à la fois par les textes qu'elle propose, mais aussi dans sa forme, toujours extrêmement, extrêmement soignée et travaillée au plan graphique. Ce nouveau numéro est consacré à la fête. La fête nuit et jour, c'est son titre. Et vous nous embarquez dans la fête, vous-même, par un premier texte où il est question de danse, précisément. Nous parlions de danse un peu folle, d'une danse un 14 juillet de l'an 1518. C'est ainsi que commence cet article.
Oui, j'ai été fasciné par cette histoire que j'avais déjà croisée, hein, d'une manie dansante, d'une épidémie dansante qui a eu lieu à Strasbourg en 1518. Et je me suis dit qu'un jour, il fallait bien que je m'y colle. C'est une affaire qui commence par une femme qui est un peu éperdue dans les rues de Strasbourg, ce 14 juillet 1518, et qui, tout d'un coup, se met à danser et ne peut plus s'arrêter de danser. Son mari essaye de l'attirer de là, sans succès. Et puis, progressivement, beaucoup de gens s'attroupent. Hein, et puis, au fil des heures, au fil des jours, elle continue à danser jusqu'à l'épuisement le plus total. Mais d'autres gens se mettent à danser. Et 10 personnes, 20 personnes. Un mois plus tard, ça sera 400 personnes.
C'est une épidémie.
Une épidémie dansante. Alors, c'était pas la première, il y en a eu d'autres. Une à Aix-la-Chapelle, qui était assez connue aussi. Ça doit être 1374, je crois. Hein, mais c'est quand même des phénomènes très rare. Et ce qui m'intéresse beaucoup, les historiens des sensibilités que nous sommes, c'est la contagiosité ici de l'émotion, hein, et le mimétisme des corps, voilà, toute cette voilà, comment tout d'un coup on fait collectif. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est la réaction des autorités à l'époque, hein, les médecins conseillent le maire, etc. Ils disent, ben en fait, c'est probablement des affaires d'échauffement de sang. Il faut aller au bout de cette danse pour les épuiser. Donc du coup, ils vont.
Si on achève bien les chevaux.
C'est ça. Du coup, ils montent des tréteaux, ils appellent des musiciens, et en fait, évidemment, ça a tout le résultat totalement inverse de ce qui est recherché. Hein, de très nombreuses personnes meurent. Hein, ça va durer 3 mois, cette épidémie dansante, hein, qu'elle intéressera beaucoup Shakespeare et puis bien d'autres. Et ce qui, voilà, cette espèce de communauté convulsive. Alors, il y a eu plein d'explications différentes, des registres différents. Certains, les médecins modernes, y voient ce qu'ils appellent l'ergotisme, ce serait du seigle contaminé qui expliquerait ces convulsions, ces crises, etc. En même temps, ils dansaient véritablement, donc c'est peut-être plus compliqué que ça. Les psychiatres, les psychanalystes y sont beaucoup intéressés, ont vu des phénomènes d'hystérie collective sur fond de détresse psychique, hein, ça les a beaucoup intéressés aussi, mais évidemment, hein, je suis historien, souvent on oublie les contextes socio-culturels qui sont tout autour, et puis les contextes économiques aussi, parce qu'on a une épidémie de variole, famine, etc., mais aussi les croyances surnaturelles, les angoisses apocalyptiques du temps, hein, qui expliquent aussi une... Il y a à la fois de la détresse psychique, une détériorisation de la vie sociale et économique, mais aussi des grandes inquiétudes eschatologiques, hein, qui expliquent sans doute, hein, ces phénomènes phénomène de manière en sorte, même s'il y a quelque chose là, on est dans ce qu'on a, ce que j'appelle, enfin, ce que les régions obscures de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, les outils classiques de l'historien sont un peu dépassés ici, hein. On doit faire appel à bien d'autres disciplines, à l'ethnologie qui s'y connaît aussi beaucoup mieux, hein, pour travailler ces questions de trans, de possession, de communauté extatique, etc.
Et ça fait écho, et c'est pour ça que vous avez décidé de commencer ce numéro par ce texte. Ça fait écho à des situations contemporaines. Vous parliez de trans, à celles qu'on peut trouver dans les raves aujourd'hui, par
oui,
exemple.
Absolument, oui. C'est que, alors évidemment, il y a quelque chose qui manque, hein. C'est parce qu'on n'est pas tout à fait dans une fête au sens classique du terme. C'est-à-dire que le rire, la joie sont quand même très en retrait ici, hein. Mais
oui, c'est pas un carnaval.
C'est pas un carnaval. Ou alors c'est un carnaval un peu macabre, hein. On pourrait, parce qu'il y a des, il y a quelque chose de carnavalesque quand même dans cette affaire-là. Mais en effet, ça a été souvent rapproché des raves barriers, de la manière dont voilà, des gens pouvaient danser des nuits entières, hein, et s'effondrer d'épuisement, voire mourir, hein, sans qu'on comprenne bien ce qui pouvait se passer. Alors, il y a des homologies formelles, des parentés de forme. Mais après, il y a aussi les drogues récréatives qu'on peut utiliser aujourd'hui, voilà, dans les fêtes, qui le MDMA, etc., qui changent aussi la donne, qui aussi fabriquent des communautés émotionnelles plus empathiques, plus joyeuses, etc. Donc, voilà, il y a à la fois une parenté formelle et en même temps des distinctions à faire pour pas rabattre en quelque sorte ce présent sur le passé lointain, Il y a des distinctions qu'il faut aussi opérer.
Voilà pour l'éditorial un peu original de ce numéro. Mais derrière, il y a des articles sur des aspects très variés de la fête. Il y a un article sur la Grèce ancienne, sur les fêtes dionysiaques. Il y a un article sur les feux d'artifice comme grande fête publique sous l'Ancien Régime. Il y a des choses sur les bals masqués au XIXe siècle à Paris. Il y a des choses sur la fête à Dakar. Mais il y a aussi des fêtes à distance. Une fête numérique sur un réseau social. Voilà, ça c'est tout le numéro. On peut piocher.
Oui, on peut piocher dedans. Alors, j'ai coordonné ce numéro avec deux amis très proches, Anouch Kuntz et Quentin de Luermoz. Et on voulait d'abord essayer de lutter contre une certaine forme de dolorisme qui était aussi un peu le nôtre. C'est-à-dire qu'au fil des numéros, c'est possible de travailler sur la mort, le deuil, la guerre transmise, la transmission transgénérationnelle, les traumas. On venait de faire un numéro sur l'insensibilité, sur l'indifférence. Et on s'est dit, bon, voilà, il y a un biais chez les historiens qui consiste à évidemment, à traquer d'abord la violence, la guerre, la misère, la famine, les crises. C'est un biais que les journalistes ont aussi.
Voilà, c'est le biais de la déviance classique.
Ce qu'on appelle le dolorisme. Hein, le dolorisme. Et il nous a semblé qu'il était important là d'offrir une percée, un numéro vers des affects plus solaires, parce que qui dit la fête dit le rire, le jeu, la liesse, le désir, le plaisir, qu'il était important aussi que les historiens s'emparent pleinement de ces objets-là. Et que c'était, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est vraiment dans le contexte qui est le nôtre, qui est si dramatique, qui est si, c'est la catastrophe absolue partout, est-ce que c'est pas obscène presque de faire un numéro sur la fête ou sur la joie? Moi, je crois que dans ces affects solaires-là, on va justement chercher une augmentation de notre capacité d'action. Hein, c'est vraiment une idée très spinoziste, hein, la joie comme augmentation de la puissance d'agir. Là où la tristesse est une diminution de la puissance d'agir. Hein, Deleuze, dans son dernier cours sur Spinoza, a des pages magnifiques là-dessus. Et donc, il nous semblait très important, hein, un peu à contre-courant du temps, hein, de savoir proposer un numéro comme ça. Mais en essayant d'aller voir un peu toute la diversité. Alors, il y a évidemment tout le fil dionysiaque, qui est un fil très ancien, donc un très bel article sur les Bacchantes, et d'essayer de retrouver l'expérience sensible des Grecs, hein, où les dieux s'invitent toujours, et Dionysos en particulier. Hein, il y a donc d'essayer de qu'est-ce qu'on sait de l'atmosphère et de l'expérience sensible des fêtes dionysiaques. Là, ça, c'est Adeline Grand-Clément qui fait ça. On a travaillé aussi sur l'histoire longue, par exemple, la littéraire Sylvaine Guyot, elle pose la question, qu'est-ce qui nous a tant émus dans la cérémonie d'ouverture des JO? Et en fait, elle remet cette cérémonie dans l'histoire longue, hein, des festivités officielles, et donc il y a des images magnifiques, justement, sur les fêtes, les feux d'artifice sur la scène, etc. Et on comprend, en fait, hein, que derrière cette cérémonie
d'ouverture... Ça s'inscrit dans une longue
histoire. Très longue durée, en fait, hein, pluriséculaire. Et ça a un effet très, très, très fort. Les bals masqués, en effet, voilà, parce que, évidemment, la question du masque, elle est absolument centrale. Le besoin de défaire, de défaire nos identités, hein, et de pouvoir aussi errer dans une fête, hein, sans être connu, sans position sociale. Il y a un désir de changer de rôle social.
D'ajouter du trouble.
Exactement, d'ajouter du trouble dans les identités sociales, dans les identités de genre. Hein. Et donc, la fête, c'est une recherche aussi du monde à l'envers. C'est-à-dire que la fête est un révélateur culturel passionnant, le carnaval en particulier, pour un historien des mœurs ou des sensibilités, parce que on voit tout d'un coup, évidemment, où sont placés les tabous sociaux, où sont placés les interdits, mais donc où sont placés les désirs. Hein, mais on voit aussi tout un ordre sociopolitique aussi se révéler bien souvent dans la fête, et le carnaval en particulier, parce que on inverse tout. Hein, les fous remplacent les rois, les ouvriers remplacent les bourgeois, les femmes, les hommes, etc. Donc cette inversion-là, elle est passionnante parce qu'elle révèle à la fois, parfois dans des groupes, des solidarités, des connivences, des affinités, mais elle révèle aussi toutes les tensions, les animosités sociales. Et parfois, ça se termine aussi très très mal. Hein. Vous connaissez le livre d'Emmanuel Leroy Ladurie, Le Carnaval de Romans, hein, 1580. Hein, des festivités, c'est dans la Drôme, hein, et des festivités qui durent 15 jours. Et puis tout d'un coup, les artisans et les notables, à force de défis, hein, finissent par en venir aux mains, et tout le monde s'entretue. Après 15 jours de fêtes et de célébrations, voilà. Donc il y a une dimension de violence potentielle, hein, qui peut surgir, qui m'intéressait beaucoup. Voilà, un numéro qu'on a voulu... Il y a aussi des fêtes paysannes, par exemple. Hein. Ça, c'est Marie-Hélène Lafont qui nous a fait la gentillesse de construire une nouvelle là-dessus.
Ça, c'est aussi l'originalité de cette revue. Il y a des articles de recherche, très sérieux, et puis il y a des articles plus littéraires, par exemple, dans le cas de Marie-Hélène Lafont, ou d'expérience, c'est le titre de cette séquence de la revue.
Absolument, on avait voulu au départ à la fois avoir des contenus de recherche très sérieux, alors pluridisciplinaire, il y a des sociologues, des anthropologues, des historiens de l'art, etc. J'en passe, mais on a voulu créer des possibilités de s'extraire des modalités d'écriture traditionnelles en sciences sociales, et puis d'inviter aussi des gens qui ont d'autres écritures photographiques, ou des metteurs en scène, ou des scénaristes, qui sur le même thème étaient capables de nous apporter beaucoup. Hein, nous avons compris aussi que l'écriture sociale avait tout intérêt à savoir aussi parfois s'inspirer des techniques du romancier, des techniques du cinéaste, etc. Et donc cette rubrique expérience, elle est passionnante pour nous, elle n'est pas toujours facile à gérer parce qu'on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Mais là, il y a par exemple une écriture est très étonnante. Il y a un carnaval sauvage qui c'est l'invention d'une tradition à Bruxelles qui s'est mise en place il y a une dizaine d'années. Et une amie au moins, Pauline Delaboulay, est une des chevilles ouvrières de ce carnaval sauvage de Bruxelles. Et là, elle fait un texte depuis le point de vue du carnaval. C'est-à-dire que le carnaval est un personnage à 1000 bras, 1000
jambes. Il a 12 ans.
C'est un texte très étrange, très surprenant, mais en même temps, on l'a tous adoré. Un texte d'une grande liberté d'écriture, hein, et d'une capacité à sortir des cadres traditionnels du récit classique auquel on pourrait s'attendre. Voilà, ça nous a au début beaucoup perturbé, et on est en même temps tous très fans, et du coup on va aller à Bruxelles à la fois présenter le numéro, mais aussi participer au carnaval pour être aussi plus concrètement dans la fête réinventée. En
mais façon. Toujours dans la fête de quartier, il y a aussi un texte sur à partir d'une œuvre de François Hers, qui est un rituel dans la ville de Bordeaux, je crois.
Oui, c'est ça, à Bordeaux.
De Quentin Deluermoz avec Massimo Furlan et Claire de Ribeaupierre.
Ça c'est une très belle expérience. Quentin donc qui était historien, hein, est allé dans ce quartier populaire de Bordeaux, où il y avait beaucoup de problèmes à cause de tuyaux, qui étaient enterrés, qui sentent très mauvais. Et donc, il y a toute une ritualisation qui s'est mise en place, une fête annuelle, hein, pour demander à la fois que tout cela soit réparé, pour une régénération du quartier. Et en même temps, on a inventé plein de formes de fanfares, de processions. C'est une fête procession, en quelque sorte, le tuyau de Clément.
Voilà, et dernière référence dans ce numéro, une correspondance formidable entre deux très grands historiens, Nathalie Zeman-Davis et E.P. Thompson, à propos des rough music et du charivari, une correspondance qui était inédite en français et que vous avez ajouté à ce numéro, la fête nuit des jours, numéro de sensibilité. Et puis on trouve la référence sur la page de l'émission aussi du livre dont nous parlions aujourd'hui, de Laureline Fontaine, La Constitution au XXIe siècle, qui paraît aux éditions Amsterdam. C'est la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, la technique ce soir, Jean-Guilain Meige à la réalisation, Jean-Christophe Francis.